Lydia Flemm, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous à l'occasion de la parution de votre livre « Bouche bavarde, oreille curieuse » qui vient de paraître aux éditions Seuil dans la collection Librairie du 21e siècle. Vous êtes psychanalyste, écrivaine, photographe. Alors d'ailleurs, on évoquera au cours de cet échange ces différents aspects de votre travail. Et puis l'auteur depuis donc maintenant une quarantaine d'années d'une œuvre très importante qui couvre bien des champs du savoir et qui souvent ont rencontré un large public avec des livres tels que « Comment j'ai vidé la maison de mes parents » en 2004 ou « La reine Alice » en 2011. Et dans ce livre, en fait, vous avez rassemblé des articles donc sur une quarantaine d'années, depuis le début des années 80, qui couvrent vos recherches tant dans la profondeur du temps que dans la diversité des approches. Du cow-boy des westerns jusqu'à Artemisia et du nourrisson en quête d'amour jusqu'à la Bible qui a servi pour Freud, comme on le verra un peu plus tard. Alors, tout simplement pour commencer, vous dites avoir voulu exposer dans ce livre la curiosité en majesté. Qu'est-ce qui pour vous vous semble si essentiel dans cette qualité de curiosité ?
Alors, j'ai découvert que le mot curiosité avait une étymologie proche de la cure, du souci de soi et du souci des autres, ce qu'on appelle le care en anglais maintenant, et rapprochement qu'on n'imagine sans doute pas, parce que la curiosité a toujours été considérée évidemment comme un très vilain défaut. On racontait aux enfants l'histoire de la Barbe bleue ou d'autres contes qui indiquaient qu'il ne fallait surtout pas être curieux. Or, je pense que la curiosité, c'est la vie elle-même et que chaque être vivant, les plantes, les animaux, explore leur environnement, les êtres humains aussi. Et les petits-enfants, en réalité, c'est la curiosité qui leur permet de vivre et de poursuivre la vie avec évidemment des étapes différentes, mais aussi, et c'est très important, cette curiosité qui va à un moment donné se tourner vers la question comment je suis née, comment les bébés sont fabriqués, d'où je viens, c'est aussi l'origine de la curiosité intellectuelle. Donc la curiosité sexuelle, c'est peut-être ça qui a gêné beaucoup de moralistes, c'est évidemment qu'il y a un lien entre la curiosité sexuelle et la curiosité intellectuelle. Mais si l'une est inhibée, l'autre le sera aussi. Et aussi, je pense que voilà, on est à la rentrée des classes. La curiosité, c'est quand même ça qu'on espère éveiller et stimuler chez l'enfant pour qu'il désire apprendre. Et personnellement, pour moi, apprendre aussi parce que j'étais enfant unique, c'était une ressource immense, et notamment de lire, bien entendu, et d'être curieuse de lire le chapitre suivant, la page suivante, etc. Et puis, donc, la curiosité, pour moi, c'est en effet source d'émerveillement, source de savoir. Et j'imagine, puisque c'est aussi un des fils du livre, ça suscite, de la part des gens qui ont le pouvoir, la crainte. Hein. Ils voudraient bien empêcher cette curiosité d'être éveillée et de se poursuivre.
Ce que vous évoquez d'ailleurs, à la fois sur cette crainte et sur le lien entre la dimension sexuelle et la dimension de savoir, autour d'un article qui évoque des souvenirs d'enfance aussi bien de Freud que de Casanova, avec cette image du coffre qui est à la fois l'espèce de ventre maternel et vis-à-vis duquel on est dans un désir de voir ce qu'il y a dedans et en même temps toujours l'appréhension, est-ce que la chose qui est dedans ne va pas nous dévorer. C'était un peu cette dimension-là aussi toujours présente dans la curiosité.
Bien sûr, parce que les enfants, et les adultes d'ailleurs aussi, inconsciemment portent sur la découverte intellectuelle et du savoir des fantasmes interdits, des fantasmes dangereux. Et donc, vous évoquez ce chapitre où je me suis amusée en effet à rapprocher le petit enfant Freud et le petit enfant Giacomo Casanova dans un rapprochement un peu inattendu, un peu osé, mais qui était drôle parce qu'en effet chacun a une histoire d'enfance avec un coffre ou une caisse, et Donc, bon, alors les enfants ouvrent leur nounours ou jouent beaucoup, en effet, aussi avec des boîtes, le dedans, le dehors, le permis, l'interdit. Et donc, voilà, que ce soit Casanova ou Freud, ils ont été des enfants curieux. Mais Freud parle de cette curiosité plus tard, il en fera la théorie en disant que, évidemment, la meilleure chance pour chacun, c'est si on peut sublimer la curiosité intellectuelle, les questions sur comment les bébés se fabriquent, est-ce que mes parents, est-ce que ma mère me prépare un petit frère ou une petite sœur dont je n'ai pas envie. Ça, c'était la question de Freud, qui le souciait beaucoup. Mais donc, on voit, alors, chez Casanova, c'est très intéressant parce qu'il est décrit comme un enfant, enfin, il se décrit comme un enfant qui saignait du nez, qui était stupide, au fond, hébété, et pas du tout le personnage virevoltant qu'il raconte ensuite dans ses mémoires. Et il a une grand-mère, enfin, il a des parents qui ne s'occupent pas de lui, mais il a une grand-mère qui va veiller sur ce petit enfant, et ça, c'est sa chance, qu'il emmène dans une espèce de cérémonie un peu magique autour d'une boîte dans laquelle on le glisse, et en lui disant surtout « n'aie pas peur », alors il est fou de terreur, bien entendu, et s'ensuit un rêve la nuit avec une série de petites boîtes qui sont répandues sur lui par une espèce de magicienne, de fée. Et il dit que à la suite de cette cérémonie, il va apprendre à lire en un mois ensuite. Et bon, un peu tardivement, mais il se rattrape puisqu'il apprend diverses langues et qu'il était, ce qu'on sait peu, à côté de ses mémoires, qui sont évidemment aussi un témoignage de l'Europe du XVIIIe siècle tout à fait passionnant. Il a écrit 3 volumes d'histoire de la Pologne, il a écrit des traités d'agriculture, des pièces de théâtre. Enfin, il avait une curiosité gigantesque, ce qui était bien sûr le cas de Freud aussi. Mais ce qui était d'ailleurs, Stefan Zweig a écrit une biographie tout à fait passionnante de Casanova, et il lui reproche d'être cet homme qui a cette chance qu'il trouve quand même trop grande d'être à la fois quelqu'un qui a joui de la vie et qui ensuite a joui de l'écriture et des mots. Et ça, il trouve qu'il faut choisir ou l'un ou l'autre. C'est les deux.
Pour le coup, c'est un peu le côté freudien hyper orthodoxe de Zweig. C'est-à-dire que ce que vous décrivez, c'est magnifique autour de Casanova, auquel vous avez évidemment par ailleurs consacré un livre. C'est l'idée, effectivement, que c'est une curiosité sans sublimation. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas besoin de sublimer. À la fois, il va au fond de sa curiosité intellectuelle quasi universelle. Alors, c'est aussi le 18e hein, qui invite à cela. Merci. Et en même temps, c'est devenu, même si vous le faites à peu près très juste, c'est devenu à la fois le modèle d'un jouisseur, mais d'un jouisseur qui n'est pas un jouisseur aux dépens des femmes. Et ça, c'est la thèse à laquelle vous tenez énormément, et je comprends. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui jouit de l'autre comme d'un objet.
Oui, c'est vrai que récemment, il y a eu un article dans un journal, plus c'était le New York Times ou autre chose, qui voyait mon livre comme qui voyait la manière dont je traite de Casanova, c'était comme un proto-féministe. Alors, j'ai trouvé ça assez joli, assez osé, et pourquoi pas? Parce qu'en effet, je pense que sa terreur, liée peut-être à l'image de sa mère qui lui faisait peur, sa terreur, c'est qu'une femme se fâche avec lui. Donc, sur le coup, en effet, il prend généralement beaucoup d'égards, aussi quand il se sépare. Ce qui est quand même très intéressant, voilà, dans la mesure où il veille, bon, bien sûr, il est d'une famille de comédiens, de danseurs, etc. Donc, d'une cour à l'autre, à travers l'Europe, il retrouve aussi ce milieu-là. Et si une de ses amies ou amantes avec qui il vit un certain temps, il doit s'en séparer, il veille à lui trouver une vie ensuite qui lui sera agréable, un rôle dans une pièce ou être engagé dans une troupe, etc. Donc, il a un souci quand même des autres, pas toujours, pas partout, je veux bien le reconnaître. Mais aussi, ce qui m'avait frappé en lisant les mémoires de Casanova, c'est presque 4000 pages passionnantes et en vérité très agréables à lire, écrites en français. Donc Casanova est évidemment un grand écrivain français. C'est qu'aussi, j'avais le sentiment qu'il était une sorte de proto-Proust, si on peut le formuler comme ça. C'est-à-dire que, oui, il a eu l'audace, inimaginable donc pour Zweig, d'avoir une première fois vécu sa vie pleinement, avec bonheur, et puis de la raconter une deuxième fois dans sa vieillesse difficile. Il a un médecin intelligent qui lui dit « écrivez ». Ce sera un bon médicament. Et donc, il va écrire ces milliers de pages où il retourne, au fond, il convoque sa mémoire. Bien sûr, il avait des notes. On sait qu'il a traîné toute sa vie d'un lieu à l'autre des notes qu'il prenait. On sait aussi, par exemple, que là, quand il a quitté les prisons, la prison des plombs à Venise, il a raconté cette histoire en prenant parfois 2 heures dans des soirées où il n'y avait pas la télévision ni Internet, donc on aimait bien les bons conteurs. Et il était un conteur magnifique qui revendiquait de prendre son temps. Hein. Donc, il avait le souci des autres, mais il aimait aussi, bien sûr, qu'on ait le souci de lui. Et donc, voilà, la mémoire, le temps ont occupé une partie de sa vie.
Alors, vous évoquez les qualités de conteur de Casanova. Le conte, justement, c'est une chose à laquelle vous êtes extrêmement attaché. C'est-à-dire que, aussi bien, évidemment, avec votre livre en 2011 de la reine Alice, où le conte venait prendre une forme extrêmement importante dans votre vie, dans la façon de la raconter. Et puis, on voit dans tout cet ensemble d'articles à quel point deux questions viennent se nouer, qui est la question de la transmission, avec l'idée, comme vous le dites, dès le début, que la transmission met toujours en cause 3 générations, et non pas simplement, c'est pas un rapport entre une mère et un enfant, mais il y a toujours plusieurs personnes dans cette affaire-là. Et puis, l'idée que le récit, le conte est l'un des éléments essentiels de la transmission. Et on le voit aussi bien à travers ce que vous pouvez raconter autour du western, qui même sous une forme presque archaïque, va figer des choses dans la position des hommes, des femmes, etc. Mais le conte, le récit, intervient énormément dans ce qui est un élément essentiel pour vous, qui est la question de la transmission.
Oui, alors je pense que les êtres humains sont évidemment des êtres de récit, de narration, de conte, et qu'ils se racontent d'abord leur propre vie. Chaque jour, on se raconte notre vie, en vérité, pour tenir debout et trouver un fil aussi de continuité dans notre identité. Je pense que nous sommes inévitablement pris dans le récit que l'on se tient à soi-même. Alors, l'enfant naît déjà aussi dans les récits qui précèdent sa naissance. Les 9 mois de la grossesse, mais parfois longtemps avant, parce que les enfants ne naissent pas si simplement pour tout le monde. Et donc, chacun de nous, même enfant, peut se projeter, les garçons comme les filles, un jour on aura des enfants, parce qu'on a été enfant aussi, et que voilà, on est aussi un chaînon dans une lignée, dans une double lignée. Mais donc, les parents s'inventent des récits autour d'un enfant qui est encore imaginaire, qui n'est pas encore né, et ils choisissent souvent le prénom. Alors, selon les cultures, on choisit longtemps d'avance ou après la naissance, ça dépend. Mais alors que le nom, c'est la loi qui préside, elle peut changer d'ailleurs. Il y a des lois qui autorisent maintenant de donner le nom de la lignée maternelle, paternelle, les deux, etc. Il y a des variations. Longtemps, c'était immuable. Mais le prénom porte l'imaginaire souvent des parents. Hein. Bien sûr, il y avait des enfants qui s'appelaient juste Junior, en gardant un prénom au fil du temps. Mais souvent, c'est porteur des histoires que les parents se racontent pour l'enfant qui vient. Et l'enfant va se trouver pris avec sa mère, avec son père. Il y a de plus en plus de pères qui entourent aussi l'éducation et même la naissance des bébés, heureusement. Mais chacun de ses parents est ramené à son enfance. Face à un enfant, on est pris dans sa propre enfance, donc dans sa généalogie. Donc, en effet, il y a tout de suite au moins 3 générations et rapidement, en vérité, 4. Mais en partie, si on n'en a pas des éléments concrets, ça reste relativement dans les archives ou pas selon. Mais donc, l'enfant est pris dans les récits et je pense que de devenir soi, et ça prend toute une vie, je crois, c'est de jouer sur la partition de ces récits et entre la fidélité et la créativité personnelle, je crois qu'on doit essayer de jouer sur ces partitions-là. Donc la transmission, elle se fait souvent à l'insu des parents et dans la réception, les choses se rejouent dans une certaine mesure. Et c'est cette liberté-là que chacun de nous doit essayer de conquérir.
Avec ce que vous dites dans le très bel article autour des liens du regard et des liens du sang aussi, qui est que, comme vous le disiez, par rapport à cette attente un peu fantasmée des parents vis-à-vis de l'enfant, l'enfant vient amener une sorte de réel par sa naissance physique et il est auteur lui-même de ses parents, puisqu'en fait c'est parce qu'il est là que les parents deviennent parents. Donc ça c'est quand même le grand trouble des jeunes parents, parce que c'est une chose qu'on dit assez peu à ceux qui vont être parents. Et c'est souvent un choc, et qu'effectivement, et que là aussi, c'est à partir de là une autre histoire qui se met en place, mais que cette position du nourrisson, elle est, même si c'est un article qui a une quarantaine d'années, mais je trouve elle reste finalement assez peu entendue pour le coup dans la fonction du nourrisson qui produit quelque chose dans les parents.
De tout à fait actif, le psychanalyste anglais Donald Winnicott, qui était pédiatre, a été très très attentif à tout ce qui pouvait se passer au début de la vie, aussi parce qu'il n'avait pas d'enfant lui-même d'ailleurs, mais il a été extraordinairement attentif à la naissance de la relation entre l'enfant qui vient de naître et son univers parental. Et comme vous le dites, en fait, c'est l'enfant qui fait naître les parents à leur parentalité, en vérité. Donc, on imagine souvent que l'enfant est très passif, mais c'est faux, parce qu'on a pu observer qu'un nourrisson initie notamment le regard, hein, c'est pour ça que je l'ai appelé aussi les liens du regard, pour mettre l'accent sur l'importance de l'activité du nourrisson, qui bien sûr pleure aussi, et c'est très singulier parce qu'il pleure dans une gamme de sons, on ne peut pas passer à côté. C'est sûr que on peut essayer, mais en général, on est quand même convoqué par l'enfant, par le nourrisson, par le tout petit, à essayer de se dire, mais de quoi il a besoin, qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant qui crie, peut-être qu'il souffre, peut-être qu'il a mal, peut-être qu'il a besoin aussi simplement de la relation. C'est d'ailleurs assez réconfortant de penser que c'est quand même dans l'amour et dans l'échange. Et ce qui, alors ça c'était le travail avec Françoise Dolto, qui pensait qu'il fallait parler aux tout petits bien avant qu'ils soient capables de parler eux-mêmes. Elle pensait, et j'ai pu le vérifier dans certaines thérapies avec des parents et des tout petits, que l'enfant, il naît aussi dans un bain sonore et il perçoit des choses, et sans doute même d'une façon très profonde et parfois violente. Je crois qu'un enfant, un tout petit, est une éponge. Peut-être justement parce qu'il n'a pas encore tout le vocabulaire qui lui permettrait de mettre des mots et donc de contenir aussi ce qu'il éprouve, et qu'il est toute sensorialité. Et je crois profondément que c'est quelque chose qui continue à nous habiter. J'aimais beaucoup le poète Yves Bonnefoy qui avait gardé des liens avec son enfance aussi, il pensait que c'était la source de la créativité, ce que je crois aussi, c'est qu'il y a là un réservoir d'images, de sons, de, d'odeur, de tactilité aussi, qui vont nous accompagner toute notre vie et qui vont rester parfois dans les limbes et parfois pouvoir se transformer aussi dans le choix qu'on va faire de notre métier ou des liens que l'on va créer avec d'autres êtres humains.
C'est là où on retrouve le titre de votre volume, puisque d'où la nécessité aussi d'avoir une bouche bavarde, typiquement vis-à-vis des enfants, mais ce que vous dites aussi de façon générale dans le monde, c'est à la fois l'articulation d'une bouche bavarde et d'une oreille curieuse, mais qui est aussi, puisque vous êtes aussi psychanalyste, qui est quand même aussi la relation de l'analyste et l'analysant, c'est-à-dire que dans le cadre de l'analyse, il y a quand même une bouche bavarde généralement allongée et une oreille curieuse qui est attentive, même si elle est silencieuse en tant que bouche, à ce qui est dit sur le divan. Donc c'est aussi, je trouve, une belle définition du rapport entre les deux.
C'est vrai. En fait, c'était l'expression m'est venue pour l'article qui concernait la rumeur dans la revue Le Genre Humain, où il me semblait que ce qui permettait la rumeur, c'est qu'il y avait toujours une oreille curieuse et une bouche bavarde, et que c'est ce que je disais il y a quelques minutes, que c'est l'élément même de notre humanité, de vouloir toujours cette conversation, y compris pour des pulsions de haine et de... Enfin, ce n'est pas toujours calme et agréable, mais on le voit bien de mille façons, malheureusement, aujourd'hui. Mais dans le lien dans le cabinet de l'analyste, bien sûr, c'est d'ailleurs très intéressant qu'on peut avoir envie, même, je dirais, de fermer les yeux pour écouter les sons qui sont prononcés, parce que ce n'est pas que ce qui est dit qui est écouté, c'est aussi comment c'est dit et puis toutes les irrégularités. Hein, le grain de la voix, bien sûr, comme disait Barthes, mais il y a une musicalité particulière à chaque personne et il y a des moments où on entend que quelque chose se transforme ou quelque chose est différent. Et alors on se dit, là, il y a quelque chose peut-être d'important qui s'énonce autrement, quelque chose qui se transforme. Donc il y a une attention, en effet, à la bouche, dans toutes ces modulations et donc à l'oreille aussi avec ces modulations d'écoute.
Alors justement, vous évoquez la question de la voix, donc vous avez consacré un très beau livre à l'opéra qui est l'une de vos passions, donc qui est la voix des amants, et vous y revenez dans le livre là aussi autour d'un article qui s'appelle Les voix de la séduction, dans lequel vous évoquez effectivement ce rapport très parfois problématique, parfois enthousiasmant comme dans l'opéra, mais parfois aussi compliqué, du rapport à la voix et particulièrement à la voix chantée et encore plus spécifiquement à la voix chantée des femmes, avec l'idée que dès le début et spécifiquement au tournant du Moyen-Âge, quand se met en place les questions de liturgie, il y a effectivement une sorte de défiance vis-à-vis de cette voix qui, comme vous le dites, noue à la fois le corps et le langage, et à la fois on a une double peur, c'est d'un côté que les femmes chantent en chantant jouissent, et de l'autre côté on a peur de la jouissance que pourraient susciter les voix de ces femmes. Et ça, je trouve que c'est aussi un article tout à fait saisissant par rapport à cette question-là, c'est une question que vous êtes revenue à plusieurs reprises.
Oui, alors, il y a ces mots de Saint-Augustin, il parle des délices de la voix comme un danger, c'est-à-dire qu'on pourrait ne plus se consacrer à Dieu, mais se laisser charmer. D'ailleurs, Carmen, c'est le chant. Le chant, c'est la séduction, évidemment. Et donc, c'est très étrange, d'ailleurs, ce qui s'est passé dans l'Église, puisque on a empêché les femmes d'ouvrir la bouche, mais à la place... On a mis des castrats, on a mis des enfants qui avaient une voix, des garçons qui n'avaient pas encore mué, et ensuite, pour les empêcher de muer, on les a castrés. C'est l'Église qui a imaginé ça, ce qui nous a donné des chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, on a heureusement d'autres manières de pouvoir transformer sa voix, mais donc, oui. C'est la voix et la voix féminine, comme d'ailleurs le corps féminin, Et dans les textes, et depuis la plus haute antiquité, c'est un danger. Après, ce sera perçu comme le diable, les sorcières qu'on va mettre sur le bûcher par milliers et milliers. Je crois qu'on n'a pas encore mesuré vraiment ce qui a pu se passer dans nos pays et ailleurs. Oui, le féminin est vraiment... Alors, est-ce que les hommes en veulent aux femmes d'être les seules à porter les enfants? Je me souviens d'un petit garçon, parce qu'on ne raconte pas tellement ça non plus, le désir des petits garçons d'être enceintes. Ce n'est pas très fréquent dans le discours habituel. Je me rappelle d'un petit garçon à qui une dame disait qu'elle allait avoir un enfant, à la mère du petit garçon. Et automatiquement, il a mis un coussin sous son pull et il a dit « Mais moi aussi, j'attends un enfant. » « Ah oui ?» Et bon, on a continué à parler avec ce petit garçon qui pouvait se projeter dans cette situation. Et pourquoi pas ? Bon, alors aujourd'hui, avec les genres qui se démultiplient, tout ça, mais ça fait très, très peur. Je pense qu'on vit une époque où on voudrait que les choses restent bien cadrées et que... Voilà, que tout ça n'ait pas lieu. Alors que, ben pour moi, la richesse aussi de l'art, des livres, de la littérature, du cinéma, de la musique, etc., c'est la multiplicité. Et notre bonheur en tant que spectateur ou spectatrice ou lecteur, lectrice, c'est de se plonger dans des univers. Quand on lit un livre, on a le bonheur d'être quelqu'un d'autre. Et hommes, femmes, enfants, vieillards, on prend toutes les places. Ça, c'est quand même un bonheur incroyable. Et il faut bien le préserver.
Justement, ce bonheur qui est d'abord une difficulté, effectivement, il y a plusieurs moments dans le livre où vous évoquez la question de la place des femmes, et entre autres dans cet article autour des trois procès à Rome au XVIIe, où à la fois la Cenci, Artemisia et puis Galilée, mais sur la Cenci et Artemisia, justement, ce qui est au cœur de ces procès autour de ces femmes, c'est la question de la place qu'elles veulent occuper ou qu'on voudrait leur faire occuper et du refus où elles sont de l'occuper. Et ça va jusqu'à la mort pour l'une, et puis alors, la fin est un peu plus heureuse pour Artemisia, mais c'est quand même... Enfin, je pense que c'est au cœur, et puis ça rejoint aussi, même si c'est pas dans le livre... Un autre de vos travaux actuels, vous avez exposé au printemps dernier votre série photographique Féminicide, et c'est important aussi, qui est l'un de vos travaux, vous avez commencé à exposer et à travailler la photographie il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, mais c'est aussi, je pense, très lié à ce travail-là, que ce sont des photographies sur lesquelles, à partir d'une paire de ciseaux, classiques, simples, si l'on veut dire, que vous mettez en scène sur des œuvres qui sont souvent des œuvres d'art importante de l'histoire de l'art, et dans lequel justement vous interrogez là la question à la fois des femmes, de la violence qui leur est faite, mais qui est une violence qui a plusieurs formes.
Oui, alors ça c'est un aspect un peu plus militant comme ça qui m'est venu. Après d'ailleurs la lecture, c'était encore un manuscrit d'Yvan Jablonka, Laetitia, et il souhaitait que je prenne la parole lors d'une soirée, et ça m'est venu de faire cette série d'images à partir en effet de l'histoire occidentale de la peinture, où il y a tous ces visages iconiques de Vénus, la jeune fille à la perle de Vermeer, Botticelli, ou Ingres, ou enfin ces femmes en majesté dont les hommes célèbrent la beauté. Et en même temps, je faisais un autre travail photographique. J'avais 2 minutes auparavant une paire de ciseaux à papier banal quelconque en main, peut-être un peu rouillé. Et je me suis dit, mais au fond, c'est ça qui est terrible. C'est cette banalité de la violence, en même temps qu'il y a un éloge infini de la beauté, et des femmes. Donc l'un n'empêche jamais l'autre. L'un, en fait, va avec l'autre. Et souvent, dans l'intimité. C'est pour ça que les ciseaux de papier, bon, c'est pas un revolver de cow-boy, mais je pense que la violence s'exerce aussi, bien sûr, par la parole, mais aussi avec des choses très, très, très banales. Et c'est cette banalité que j'ai voulu entrechoquer avec l'histoire de l'art, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus sublime dans la vision qu'on peut donner des femmes, et qu'en effet, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, l'histoire des trois procès à Rome, c'était une commande au départ. C'est très intéressant parce que Stendhal a écrit un livre sous couvert d'anonymat, et ça vaut la peine de le lire, c'est un beau petit livre qui s'appelle « Les Chelsea ». Et où il se cache, c'est très surprenant, il fait comme si c'était un objet anonyme, comme s'il n'en était pas l'auteur. Alors, on connaît la passion de Stendhal pour l'Italie, pour Rome, bien sûr, et aussi cette sorte de vertige que peut prendre la visite en Italie. Et il va voir le tableau de Beatrice Cenci, à l'instant où elle va être emmenée à la guillotine. Et c'est un visage de jeune fille tout à fait magnifique, dont on va louer la piété chrétienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé en vérité? C'est qu'elle a été enfermée avec une belle-mère, des frères et sœurs, dans un château, une forteresse, et son père était une sorte de barbe bleue. Mais qui lui a imposé l'inceste en pensant d'ailleurs que c'était de ces enfants-là, connaissaient les saints. Enfin, il avait tout un discours pervers sur la sainteté de cette chose. Et la famille vivait vraiment dans une violence sous le toit paternel incroyable, au point, à un moment donné, de se résoudre à glisser quelques gouttes d'opium dans une boisson et de faire venir des sbires pour tuer ce père incestueux et violent. Et bien sûr, qu'est-ce que l'autorité papale a vu de cela? Non pas l'inceste, mais le parricide. Et on l'a appelé l'ange du parricide en la décrivant et en vantant la manière sublime dont elle avait eu de venir jusqu'à la guillotine devant tout Rome assemblé. Ça se passait un 11 septembre 1599, si je ne me trompe pas. Et il semblerait que pendant longtemps, le 11 septembre, on fêtait à Rome le souvenir de cette jeune fille qui avait eu le courage de s'opposer à son père, qui l'avait payé de sa vie. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il faut imaginer qu'il y avait un millier de peintres à Rome pour répondre aux commandes des papes, des nobles, et partout il y avait des maisons sublimes avec des fresques, des peintures, etc., des sculptures. Et les peintres venaient aux exécutions, ils étaient en première ligne, pour voir le corps de près se décomposer, se défaire et se servir de cette connaissance pour mettre en scène des saints dans diverses histoires de la théologie et de la Bible et des évangiles. Donc on peut imaginer, il semble que ce soit exact, que la Artemisia Gentileschi, dont je raconte un autre procès, s'est trouvée enfant sur les épaules de son père, qui était peintre, avec Caravage et d'autres autour d'elle, qui assistaient à cette exécution lente, difficile, et il y avait aussi ce rapport direct à la violence, quand même, dans les rues, mise en scène, et c'est assez étonnant pour nous, parce que je crois qu'on, en tout cas moi, je ne me vois pas aller dans la rue pour assister à une exécution. On est devenu très, on préfère penser que ça se passe ailleurs, et oui, pas sous nos yeux.
Le rapport est beaucoup plus ambivalent à la réalité de la mort même, et on l'a pour partie vu aussi avec la question du Covid, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne sait pas véritablement quoi faire de cette dimension-là, et on en a oublié l'essentialité anthropologique aussi, pour le coup.
Oui, tout à fait. Et j'avais assisté à des séminaires de Philippe Ariès qui parlait bien et de la transformation de la naissance et de la mort, de choses qui se passent souvent en dehors de la maison, alors que dans le temps, c'était enfin, dans l'intimité familiale et que ça avait lieu. Donc on avait un rapport peut-être plus concret, palpable à la vie et à la mort qui fait partie de la vie. Alors je ne sais pas si on dit un mot d'Artémisia.
Si, si, bien sûr, parce que je pense, parce que pour le coup, alors, vous évoquerez son histoire, mais c'est, il y a aussi, alors c'est pas une sublimation, mais c'est quand même l'histoire aussi d'un affranchissement et d'une femme qui décide d'occuper la place qu'elle va occuper.
Oui, alors c'est une belle histoire parce que elle ne se termine pas de cette manière tragique, mais il y a un moment quand même terrible. Elle vit dans ce milieu de peintre et elle, sous le toit, dans l'atelier du père où elle apprend les techniques de la peinture avec pour maître Caravage, il y a un jeune peintre qui se trouve présent et qui la viole. Et elle raconte, elle a écrit tout cela et surtout, il y a eu un procès, ce qui est rare et très précieux. C'est un procès qui a duré 9 mois, qui a été intenté au fond par le père. Horatio Gentileschi, qui donc ce peintre, et c'est une histoire confuse, il y a sans doute toutes sortes d'intérêts qui se mêlent à l'histoire, mais pour nous, c'est évidemment très précieux d'avoir ces documents, les minutes du procès, où en plus, on ne la croit pas. On ne la croit pas, et elle qui a besoin quand même de ses doigts pour peindre, elle va être torturée et on va lui ligaturer les doigts et la torturer pour qu'elle avoue que c'est faux, ce qui n'est pas le cas. Mais finalement, bon, l'affaire se résout en partie parce qu'il y a toutes sortes de choses cachées, peut-être plus compliquées que cette histoire. Mais en tout cas, elle est lavée du soupçon d'erreur, son violeur est reconnu comme tel, il est banni de la ville et elle-même est mariée par son père et part à Florence vivre une carrière de peintre. Et là, c'est évidemment extraordinaire parce qu'elle a beaucoup de talent, elle est reconnue et elle signe de son nom ses peintures et elle va se mettre en scène dans toute une série d'images ou mythologique ou biblique, où elle se sert au fond de son propre visage pour raconter l'histoire des femmes nobles, des mythes et des histoires religieuses, mais aussi pour s'affirmer, y compris un portrait magnifique qui, je pense, appartient à la reine Élisabeth II, où elle est la peinture elle-même. Elle s'est représentée en image de la peinture. Et donc, il y a là, évidemment, un conte, si on veut, puisque c'est une belle histoire, qui est réconfortant pour tout le monde, mais en particulier pour les femmes aussi, qui peuvent donc retourner, renverser leur destin et de quelqu'un qui doit subir des contraintes et des violences, qui peut s'exprimer et sublimer la chose. Et ça, évidemment, c'est une grande chance et je suis très, très fière qu'il y ait dans le volume Une histoire mondiale du féminisme et des
Tout à fait.
féminicides à la découverte dirigée par Christelle Tarot, Mon Artémisia avec un petit texte qui raconte brièvement cette histoire.
Oui, voilà, qui est l'un des grands volumes très attendus en cette rentrée, effectivement, qui est une somme assez considérable qui traverse toute l'histoire de l'humanité par ce prisme-là, et qui, pour le coup, un peu comme vous le faites aussi, était l'un de ses intérêts, c'est que ça mélange les formes de savoir, les types de connaissances, et l'idée qu'effectivement, c'est pas simplement ni une question sociologique, ni une question anthropologique, mais que ça traverse absolument toute l'histoire de l'humanité. C'est ça qui, je pense, est pour le coup un point commun avec votre propre travail, qui est de se dire, voilà, toutes les modalités de la création doivent être interrogées. Et au titre, alors, on évoquait votre travail de photographe, et vous avez aussi un long article assez passionnant sur la question de la photographie, avec la façon dont se construit peu à peu finalement la légitimité photographique, avec des réceptions très distinctes. Alors on connaît assez bien la réception pour le moins froide qu'on a eue Baudelaire. Même si vous montrez que c'est un peu plus subtil que ça, c'est pas simplement un rejet du naturalisme comme on peut le croire. Et surtout aussi, vous exhumez un article tout à fait passionnant de Paul Valéry, qui je ne sais pas s'il est encore inédit, mais au moment où vous aviez fait l'article, c'est un texte de Paul Valéry qui n'avait connu aucune reprise en volume, et qui est absolument saisissant, effectivement, sur la place que Valéry va assigner justement à la photographie, en disant non, c'est un autre monde de création, il n'y a pas du tout d'effet dans lequel ça viendrait prendre la place qui de la peinture, qui de la littérature. Et ça, je pense que c'est aussi la force que vous injectez dans votre livre, qui est de montrer que toutes les formes de création se lient entre elles sans se superposer.
Mais oui, c'est... Bon, bien sûr, on imagine le malaise des peintres quand la photographie a surgi, puisque ce désir de mimésie, ce désir d'exactitude de la réalité était enlevé. Donc il fallait d'autres voies, et on peut imaginer aussi que l'abstraction a pu avoir aussi plus de sens dans la mesure où il ne s'agissait plus d'essayer de reproduire la réalité, mais peut-être de laisser plus d'inventivité, d'imagination et des voies tout à fait inconnues. On voit dans l'impressionnisme, c'est parfois très surprenant, quand on s'approche d'un tout petit morceau d'un tableau de Monet, par exemple, c'est de l'abstraction en réalité. Donc on voit bien que la photographie a quand même tout de suite tracassé tous les artistes, y compris aussi, bien sûr, les écrivains. Parce que quand on lit toute cette magnifique littérature du XIXe siècle, le roman, c'est quand même aussi très largement des descriptions. Et tout d'un coup, il y a là, donc en fait, cette nouvelle technique qui n'est pas reçue d'abord comme un art. Il a fallu très 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 longtemps, c'est très récemment, que la photographie peut être considérée comme un art. Ça a d'abord été considéré comme une technique moderne, dangereuse, au même titre que les premières machines en Angleterre ou le chemin de fer, etc. Ou aujourd'hui, le numérique qui nous permet de nous parler, mais qui parfois nous pose quelques petits soucis. Mais donc, la littérature a été aussi convoquée par la photographie. Et c'est étrange que ce texte de Valéry n'ait pas été repris. On le trouve en ligne, alors, sur le coup, là, ça c'est un des bonheurs d'Internet, ces bibliothèques virtuelles qui nous permettent de lire des textes parfois difficilement accessibles et partout sur la planète. Mais chaque fois que quelque chose surgit, on peut se dire... Oh là là, c'est la catastrophe, on va tout perdre, plus rien n'est comme avant. Ou au contraire, on peut faire confiance à l'inventivité humaine et se dire quelle chance, on va trouver d'autres voies. Et Baudelaire était pas très heureux, mais il aimait quand même assez bien se faire tirer le portrait. Donc voilà, il y avait quand même un peu d'ambivalence. Nadar était assez doué. Et il a fait des portraits d'écrivains magnifiques. Puis il y a des écrivains qui ont même tâté de la photographie. Et Valéry, au fond, il voit comment on peut ouvrir de nouvelles voies à la littérature. Et ça, c'est quand même très, très passionnant. Puis, voilà, on est dans une rentrée. Dans les librairies, on est curieux de ce qui émerge de neuf et de différent.
La curiosité est quand même l'un des grands ferments de la librairie et de la vie éditoriale. C'est toujours se demander ce qui va venir et ce qu'on va découvrir.
Oui, et puis je pense que la librairie, ça reste quand même un lieu magique où on peut aller à la rencontre d'univers qu'on ne connaît pas, aidé parfois par des libraires qui entrent quand même en dialogue avec les gens qui ont envie de... pas seulement relire, mais de découvrir. Et c'est un lieu, pour moi, magique. Ça a toujours été un lieu merveilleux. Depuis que je suis toute petite, il y a un lieu sur Terre qui est meilleur que toutes les îles enchantées. C'est la librairie, bien sûr.
dont on essaie de faire parfois des îles enchantées. Alors justement, le dernier moment de votre livre, qui est presque un grand tiers du livre, est consacré à Freud, enfin Freud et d'autres, mais c'est le centre. Et alors, c'est aussi le premier livre que vous ayez fait paraître en 1986, qui était La vie quotidienne à l'époque de Freud, enfin de Freud et de ses patients. Et vous dites aussi dans l'introduction que le point commun que vous voyez entre vos différents articles, c'est quand même ce rapport à l'intime, cette sociologie de l'intime, comme vous l'appelez. Et ce qui est très étonnant et assez passionnant, c'est justement, on sent que il y a chez vous une, au bon sens du terme, une familiarité avec Freud, et que, au-delà de la question théorique, des questions conceptuelles, la façon dont vous, à la fois, vous le recevez, vous le faites passer, c'est vous le faites aussi passer en tant qu'individu, en tant que personne ayant véritablement existé. Et l'un des articles, entre autres, c'est ce que vous racontez autour de la Bible sur laquelle Freud a travaillé, donc la Bible de Philipson, qui était ce qu'on va appeler un juif des Lumières, qui est une Bible très très illustrée, que le père de Freud lui offre, et de vous montrer à quel point, et ça aussi je trouve ça très très fort dans votre article, il ne s'agit pas de montrer l'articulation du conceptuel, de la topologie freudienne, etc., mais comment au contraire c'est par l'imaginaire, le récit de cette Bible-là qui va être fécond dans le travail de Freud.
Alors, l'importance des livres qu'on offre aux enfants. Le papa de Freud offre à son fils, à 7 ans, une Bible illustrée, une Bible bilingue, illustrée par les plus belles gravures archéologiques du 19e siècle. Donc, il lui offre au fond le champ du savoir. C'est un cadeau fabuleux, parce que sur une page, on voit donc le texte en hébreu, à côté le texte en allemand, en dessous des commentaires théologiques, mais anthropologiques, culturels, artistiques, des mœurs ethnologiques, et plus de 600 gravures archéologiques. Donc c'est pour lui, petit enfant, comme une encyclopédie, on sait comme les enfants aiment se perdre dans les dictionnaires, les encyclopédies, les BD, les mangas aujourd'hui, mais il était tout petit, donc il apprend à lire dans ces pages, et d'emblée, il y a une multiplicité d'éléments. Ce n'est pas juste un texte, c'est un texte dans deux types d'alphabets, c'est un texte avec des images, c'est un texte avec des commentaires, c'est un texte qui éveille sa curiosité, et aussi d'ailleurs sa curiosité sexuelle, il le racontera. Et donc cette Bible qu'il découvre quand il a 7 ans, et où il apprend à lire et à rêver, on peut dire, et à imaginer, son père la lui offre pour son 35e anniversaire. Et avec une très belle dédicace où il lui souhaite de s'ouvrir au monde intellectuel et peut-être d'en faire partie, ce qui était bien sûr le souhait aussi familial dans la famille de Freud. Donc je tiens beaucoup à cette... assez peu connue, cette Bible de Philipson, qui est un très bel objet. Je pense qu'on doit pouvoir le trouver, peut-être que vous pourriez le proposer.
On va partir à sa recherche.
Oui.
Mais qui est aussi, c'est ce que vous dites aussi très bien, vous l'évoquez dans d'autres moments, c'est qu'on sait aussi à quel point ça va aussi alimenter le rapport de Freud à l'archéologie, qui est un rapport absolument décisif, parce que c'est à la fois un rapport profondément intime, et vous racontez des scènes tout à fait étonnant dans le rapport de Freud à sa collection d'objets anciens et même à la façon dont il la met en scène dans sa propre famille. Et puis, on sait aussi à quel point c'est la grande métaphore de Freud pour le travail analytique, même si, comme toute métaphore, elle a ses limites, avec l'idée qu'effectivement, le travail analytique, c'est le moment où on va découvrir des morceaux enfouis, mais aussi conservés parce qu'enfouis. Donc c'est là que c'est très très beau, c'est que tout ça se déplie finalement sur toute la vie de Freud, depuis son bureau jusqu'à sa table à manger et jusqu'au travail avec les patients.
Oui, alors il reconnaissait qu'il avait dépensé beaucoup d'argent dans sa vie pour cette collection, et quand il avait un nouvel objet, il l'emmenait à la table familiale, il le déposait sur la table c'était un convive avec la famille, ce qui est très beau. Et bien sûr, les patients qui entraient dans son cabinet avaient tout de suite le sentiment qu'au fond, ils étaient convoqués dans cette succession d'êtres humains qui, depuis le passé le plus ancien jusqu'à eux-mêmes, s'interrogeaient sur ce que c'est être un être humain. Et donc, c'était évidemment pour lui une sorte de preuve qu'on pouvait ramener le passé à la vie. Et c'était quand même ça l'objet de sa quête, avec ses patients notamment. Mais aussi, c'était rendre tangible le passé en tant qu'il peut être aussi présent.
Tout à fait.
Ce n'est pas qu'une histoire, c'est aussi une présence. Et bon, je crois qu'aujourd'hui, ce serait difficile de reproduire un cabinet comme il en avait, mais ça devait quand même être assez agréable de s'allonger entouré de toutes ces divinités d'Égypte, de l'Inde et de partout dans le monde, et de rêver, et de se sentir autorisé aussi à remonter à sa propre histoire, pas seulement en tant que nation, que peuple, etc., mais en tant que personne. Ça donnait une sorte de dignité à cette recherche intime pour laquelle on peut parfois peut-être se sentir un petit peu gêné. Hein. J'ai des patients qui parfois me disent « mais quand même, je ne vais pas raconter en détail ces petits faits, c'est plus de mon âge, enfin, c'est pas bien, etc. » Et là, c'était vraiment une invitation et une permission à revenir à ce qui nous a constitués à notre insu, souvent, et ce qui revient de loin, mais qui peut revenir à la vie.
Oui.
Une puissance. Et c'est pour ça qu'il aimait particulièrement Pompéi, évidemment.
Oui. En Pompéi, qui est presque en soi un fantasme d'archéologue, puisque c'est l'idée d'avoir figé à un moment donné quelque chose, et tout est là, comme si. Il y a un effacement de la distance qui crée le trouble aussi. Mais c'est ce que vous expliquez aussi dans ce très bel article final autour du rapport entre psychanalyse et histoire, dans lequel vous liez à la fois ce qu'il y a de commun et d'écart aussi, puisque vous ne recouvrez pas évidemment les deux, mais l'idée que les deux sont quand même des tâches d'élucidation par la narration. C'est-à-dire que c'est quand même l'idée qu'il y a un moment, on reconstruit, on fabrique une histoire. Simplement, l'un s'occupe un peu plus de vérité, l'autre un peu plus de vraisemblance, mais que c'est tout à fait décisif, et que cette présence du passé dans le présent, et cette distance qu'on a avec ce rapport-là, c'est ça qui fait que les deux disciplines sont fécondes.
Oui, l'écriture de l'histoire a occupé beaucoup d'historiens, Foucault, Michel de Certeau, plus récemment Jacques Rancière, et beaucoup d'autres, Et bien sûr, l'histoire en français, c'est le même mot hein, pour dire l'histoire avec un grand H ou les petites histoires. Mais l'écriture, elle est obligée. On ne peut pas restituer le passé sans le raconter. Donc, il y a quand même la question de comment on le raconte. Et je pense que d'ailleurs, je n'ai pas écrit là-dessus, mais... j'écoute parfois des commentaires sur des documentaires de science, c'est toujours passionnant, mais je suis souvent heurtée par les mots qui sont choisis, parce que voilà, nous sommes des êtres humains et nous ne pouvons pas parler en mathématiques. Nous sommes obligés de parler avec les mots de notre langue. Or, ces mots portent une idéologie à chaque pas, et donc pour l'histoire, c'est quand même un souci. Donc, chaque historien ou historienne doit réfléchir aux mots utilisés pour essayer de décrire ce passé ou de le reconstruire, parce qu'évidemment, on n'a pas toujours tous les éléments non plus pour le comprendre. Et puis, c'est un peu dans l'après-coup qu'on reconstruit les choses. Donc, voilà. Et pour le passé personnel, alors là, c'est une subjectivité, évidemment, qui autorise d'autres choix et qui est aussi quand même un récit, je pense, c'est ça qui est différent peut-être, c'est que c'est un récit qui se réécrit sans cesse. On n'a pas une seule version de notre histoire. Au fil du temps, elle se transforme parce qu'on en a besoin aussi.
Voilà, je pense que c'est aussi... nous conclurons sur ce point. C'est aussi l'un des objets de votre livre, qui est à la fois cet appel à la relecture, à la réécriture, au tissage entre les différents points du savoir, et qui est aussi probablement l'une des grandes sources de la curiosité. Merci beaucoup. Oui, allez-y, je vous en prie, pardon.
Non, mais je souhaiterais à tous les lecteurs, toutes les lectrices, tous les gens qui se promènent dans votre librairie, dans toutes les librairies, d'exercer leur curiosité. Et je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Lydia Flemme. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous.
À vous aussi.